Vous avez une Bible avec vous. Sinon, il y a une feuille qu'on vous a donnée à la porte qui contient presque tous les versets que nous allons voir ensemble ce matin. Mais il y a quelque chose qu'on aime faire avant de recevoir la parole ici à la vie comblée. On aime faire une petite déclaration de la foi parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche, en croyant du cœur, s'accomplit. OK? Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde a terminé les achats pour Noël? Tout est terminé, tout le magasinage, si vous en faites, c'est déjà terminé, n'est-ce pas? Non, pas une bonne question à poser, hein? Mais est-ce qu'il y a des gens qui aiment faire les échanges de cadeaux? Ouais? Qui aime ça, échanger les cadeaux? Ah. On a un problème ici, hein? Est-ce que vous aimez échanger les cadeaux? Franchement, il y a plus que 10 personnes qui aiment ça, hein? Est-ce que vous aimez recevoir, vous aimez donner, bien entendu. Mais aujourd'hui, nous allons parler du plus beau échange. Souvent, je crois que c'est même triste que à cette saison de Noël, on est tellement occupé, on des fois même stressé parce qu'on a besoin de trouver juste la bonne chose pour la bonne personne et des fois c'est pas évident et des fois on perd de vue la raison pour la saison. Et la raison pour la saison, c'est Jésus. C'est pas le Père Noël, c'est le Père de Noël comme on a dit. Et c'est pas juste échanger les cadeaux naturels. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Il y a un don que Dieu nous a fait et un échange que Dieu a fait avec nous qui est si merveilleux que si on oublie ou si on ignore la signification de cet échange, que nous allons passer à côté de la meilleure chose que Dieu veut pour nous. Ah oui, probablement. C'est pas... Ah, oh, oui, c'est ça, voilà. C'est le plus bel. C'est en... Donc, ça, c'est pas correct?
Oui, c'est correct.
Oh, mais là, cette fois-ci, j'ai pas tort. Mais c'est pas grave. Je suis habitué parce que vous allez voir dans vos notes ici que souvent, j'ai fait une erreur que j'ai corrigée sur le PowerPoint, mais j'ai oublié de corriger sur la feuille. Mais merci, hein, c'est bien gentil. Et dans le fond, j'aime ça parce que j'aime apprendre. Donc, si jamais vous voyez des fautes de français, ne soyez pas gênés de me le dire parce que j'aime apprendre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut regarder et penser vraiment à qu'est-ce que Dieu a fait en nous envoyant son Fils. Pourquoi est-ce qu'on échange les cadeaux? Pourquoi est-ce qu'on donne les dons? Parce qu'on devrait faire cela en pensant aux dons que Dieu nous a fait. Et le don que Dieu nous a fait est si merveilleux. Il y a un verset, un passage, quelques versets en fait, en Hébreux chapitre 2. Je veux qu'on lise cela ce matin et je veux qu'on demande au Saint-Esprit, celui qui a inspiré ces paroles, je veux qu'on lui demande de nous éclairer, de nous donner la lumière, d'illuminer les yeux de notre cœur, parce que les passages que nous allons lire peuvent transformer votre vie pour toujours. Et ça va de pair avec la raison pour la saison qui est Jésus. Verset 9 de Hébreux 2, regardons ceci. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, tout le monde dit Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour qui? Pour tous. » Donc, ça, c'est vraiment l'esprit de Noël, n'est-ce pas? Nous voyons Jésus qui était abaissé pour un peu de temps, tout le monde dit un peu de temps, au-dessous des anges. Pensons à ceci. Qui est Jésus? C'est vraiment la question primordiale. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Créateur du monde. Toutes choses ont été créées par lui et toutes choses ont été créées pour lui. Tout le monde est par lui et pour lui. Est-ce c'est qui vous a créé? Pour qui êtes-vous créé? Jésus. Donc, votre raison d'être se trouve vraiment dans le fait que nous sommes la création de Jésus, le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je veux que vous compreniez que Jésus, le Fils de Dieu, n'a jamais eu de commencement. Il n'y avait jamais un seconde dans l'éternité passée où Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas existé. Vous êtes d'accord avec cela? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit coexistent. C'est un seul Dieu qui se manifeste dans trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et Dieu a toujours existé. Jésus a toujours existé. Et c'est important de comprendre cela. Jésus a eu un commencement en tant qu'homme, mais jamais en tant que Dieu. Et c'est super important. Dieu a toujours été. Dieu est aujourd'hui et Dieu sera pour éternité. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le Fils de Dieu, nous voyons Jésus qui était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu, le Fils, a pris une décision de sa propre volonté. La Bible dit en Philippiens chapitre 2, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et en devenant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Donc Jésus, le Fils de Dieu, il a pris une décision de sa propre volonté de se laisser abaisser. Amen? Je ne sais pas pour vous, mais ça touche mon cœur que le Créateur du monde, toutes choses ont été créées par lui. Toutes choses ont été créées pour lui et il a pris une décision par amour, parce qu'il nous aime. Il a pris une décision de s'abaisser. Wow! Ça, c'est Noël. Et on va voir, parce qu'il a fait cela, il a voulu faire un échange avec nous. On va voir cela dans quelques minutes. Regardons verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui, encore on va le dire, pour qui et par qui, sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. N'est-ce pas bon? On voit la raison que Jésus est venu sur la terre, c'est parce qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Donc, pour amener beaucoup de fils à la gloire, il fallait que le prince de notre salut souffre. Il fallait que Jésus souffre en tant qu'homme, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. N'est-ce pas quelque chose? Joyeux Noël! Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, que le Dieu Tout-Puissant n'a pas honte de vous appeler son frère. Et on va voir ce mystère dévoilé un peu plus dans quelques minutes. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. C'est le plus beau cadeau qu'on pourrait jamais imaginer ou demander. Bon, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du sang et de la chair ce matin? Sans le sang, sans la chair, vous n'avez pas le droit d'être sur la terre. Vous êtes d'accord? Si vous n'avez pas encore physique, si vous n'avez pas du sang qui coule dans vos veines, vous ne pouvez plus être sur la terre. Et qu'est-ce qui arrive? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que Dieu avait besoin de venir sur la terre parce que nous étions dans l'impossibilité d'aller le rejoindre au ciel à cause de nos péchés. Et Dieu s'ennuyait de nous. On a entendu Gabriel dire aujourd'hui qu'elle s'ennuie de sa fille qu'elle a perdue. Mais savez-vous quoi? Pourquoi est-ce qu'elle a ce sentiment? Elle est créée à l'image de Dieu. Et Dieu s'ennuyait. Le cœur de Dieu a été brisé parce que ses enfants ont été perdus. Et il a dit, bon, il faut que je fasse de quoi. Et il avait déjà un plan. Et son plan, c'est, bon, il ne peut pas venir me rejoindre, je vais descendre les rejoindre. Mais pour descendre sur la terre, il fallait qu'il soit dans un corps de chair et de sang. Et ça, c'est Noël. Amen. Regarde quelqu'un a dit, joyeux Noël. Alléluia. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, il y a également participé lui-même. Alléluia. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Donc, ce bébé, souvent, les gens disent, oh, c'est mignon, on voit les crèches et on voit mon petit Jésus dans la crèche, oh, il est mignon. Ouais, ce petit bébé mignon, il a grandi. Ce petit bébé mignon a donné sa vie, il a versé son sang sur une croix et aujourd'hui, il est ressuscité, couronné de gloire, il est le roi des rois. Amen. Il est le prince de la paix, celui qui est assis sur le trône de l'univers entier, c'est un grand guerrier vainqueur. Mon Jésus n'est plus un petit bébé dans une crèche. Mon Jésus est le Fils de Dieu. Et si tu le verrais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? On voit que l'apôtre Jean, quand il a vu Jésus, il est tombé comme mort. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était si glorieuse. Vous savez qu'au ciel, on n'a même pas besoin du soleil, même pas besoin de Hydro-Québec. C'est le Fils de Dieu qui éclaire toute la ville. Jésus, le Fils de Dieu, est maintenant glorifié. Il est puissant. Mais pour un peu de temps, il s'est abaissé. Il est devenu un homme comme vous et comme moi, et il a été assujetti de toutes sortes de faiblesses. Il était tenté en toutes choses comme nous, mais sans avoir péché. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est venu pour détruire celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Savez-vous quoi? La mort ne vient pas de Dieu. En fait, en Corinthiens chapitre 15 dit que la mort, c'est le dernier ennemi qui va être mis sur les pieds de Jésus. La mort spirituelle est déjà vaincue. Mais un jour, la mort physique va être vaincue aussi. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Regarde bien, versets 14 et 15 encore. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Savez-vous que si vous ne connaissez pas Jésus, vous allez avoir peur de mourir. Vous êtes d'accord que la plupart des gens, ils ont peur de mourir. Et c'est la crainte de la mort qui les rend serviteurs, esclaves de Satan. Mais maintenant, moi, j'ai plus peur de mourir. Je sais qui je suis. Je sais que je suis sauvé. Je sais que j'ai aujourd'hui la vie éternelle en moi. Et j'ai une place réservée pour moi au ciel. Jésus est venu sur la terre. Il a vaincu Satan. La mort a été anéantie spirituellement. Un jour, même physiquement, la mort physique va être complètement anéantie. Mais regardons, verset 9. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Soulignez cette phrase. Semblable en toutes choses à ses frères. Donc, savez-vous que le Dieu de l'univers, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, il s'est abaissé pour un peu de temps. Il est devenu semblable en toutes choses comme nous, comme vous. Il y avait juste une différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus n'a jamais péché. Et c'est une grande différence. Mais à part de ça, il est venu au monde de la même façon que vous et moi nous sommes venus au monde. Bien entendu, il était conçu surnaturellement, né d'une vierge. La Vierge est tombée enceinte par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. Mais après ça, Marie avait besoin d'accoucher. Et il est sorti du ventre de sa mère, de la même façon que vous et moi, nous sommes sortis du ventre de notre mère. Il était mis dans une crèche, il avait besoin de manger. Jésus a connu la faim, Jésus a connu le froid, Jésus a connu la joie, il a connu les caresses de maman aussi, il a connu aussi les coups de ceux qui l'ont crucifié. Jésus sait quoi? Il sait c'est quoi d'être aimé et Jésus sait, il sait c'est quoi d'être rejeté et maltraité aussi. N'est-ce pas bon de savoir que le Dieu de l'univers, il peut comprendre? Regarde quelqu'un d'autre et dis joyeux Noël. Maintenant, regarde la personne dans les yeux et dis Dieu vous comprend. Donc, on peut jamais dire, oh, mais Seigneur, tu comprends pas. Oh, Seigneur, tu sais pas, c'est dur. Il sait. Il sait que c'est dur, la vie, des fois. Il sait c'est quoi d'être fatigué du voyage. Il sait c'est quoi d'avoir faim. Il sait c'est quoi d'avoir ses meilleurs amis mentir et le rejeter. Amen. En conséquence, verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, quoi? Miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ceux qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il y a des gens qui ont été tentés dans le passé? Hein? Moi, j'ai eu des tentations. J'ai encore des tentations. Est-ce que vous avez encore des tentations des fois? Une fois par deux ans, à peu près? Ça arrive? Ou une fois par deux minutes, je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui est miséricordieux, qui est fidèle et qui peut nous secourir dans nos tentations parce que lui, il était tenté en toutes choses comme nous, sans avoir péché. Le premier Adam a cédé à la tentation, la convoitise des yeux. Regarde le fruit, c'est beau. C'est bon à manger, la convoitise de la chair. Oh, tu manges ça, tu vas être comme Dieu, tu vas connaître le bien et le mal. Oh, l'orgueil de la vie. Tu sais, convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ça, c'est comme... Dieu, il sait que Satan n'a pas de nouveaux joues à tout... truc. Il ne peut pas sortir une nouvelle tentation qu'il n'a jamais eue avant. Jésus était tenté dans les mêmes domaines, peut-être pas dans exactement la même façon. Maintenant, nous avons la haute technologie pour nous tenter, mais c'est quand même la même base. La convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et le premier Adam a cédé. Le deuxième Adam, Jésus, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et maintenant, il peut nous secourir quand nous sommes tentés. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est Noël. Regarde notre personne et dis joyeux Noël. On va faire le tour. Pourquoi est-ce que c'est un joyeux Noël? Parce que Dieu s'est fait chair. Parce que Dieu s'est abaissé. Parce que Dieu est venu nous chercher. Et quelque chose qu'il faut jamais oublier pendant cette saison des fêtes, quand on pense à Jésus, c'est que Jésus est 100% Dieu et Jésus est 100% homme. Dieu le Fils a toujours été 100% Dieu. Il est encore 100% Dieu aujourd'hui. Mais voici la chose, et c'est difficile pour moi de me continuer parce que je veux sauter de joie quand je pense à cela. Le Dieu de l'univers, il a créé l'homme. Nous sommes sa création. Est-ce que vous êtes d'accord que la personne qui va créer est toujours plus grand, plus puissant que la chose qui est créée? Donc là, on voit le créateur du monde, celui par qui et pour qui sont toutes choses. Il est Dieu à 100% et il a pris une décision de se lier pour éternité avec sa création. Je vais devenir un avec ma propre création. Le Dieu Tout-Puissant, j'ai créé l'homme, maintenant moi-même je vais me lier pour éternité avec ma création. 100% Dieu. On a des versets qui parlent de ça. Regardons ce verset ici, qui nous montre Jésus, même après qu'il est venu dans le monde, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Vous savez, il parle de, à qui? Ton trône, il parle au Fils, n'est-ce pas? Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, on voit là-dedans que le Fils de Dieu est à 100% Dieu. Tout le monde dit, Jésus est Dieu. À 100%. Mais celui qui est Dieu à 100%, il s'est fait chair, il est devenu un homme à 100%. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, quoi? Homme. Maintenant, n'allez pas trop vite ce matin. Demande, je vous supplie, demande au Saint-Esprit ce matin de vous donner une révélation de ce que nous sommes en train de dire. Dieu, le Fils, 100% Dieu, il est devenu un homme. Quand il est venu au monde, quand il était dans la crèche, il était un homme. Est-ce que vous êtes d'accord? Il était un homme avec toutes les faiblesses d'un homme mortel. Vous êtes d'accord? Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est encore aujourd'hui un homme. Il est encore aujourd'hui un être humain. Savez-vous que celui qui est assis sur le trône de l'univers, c'est un être humain? Et j'ai perdu plusieurs de vous. Il y a des personnes qui parlent, je pense que Jésus est venu un homme, mais il n'est plus un homme. Oui, il est encore un homme aujourd'hui, sauf qu'il y a une différence. Il n'est plus un homme mortel. Il n'a plus les mêmes faiblesses. Il a passé pour un peu de temps, il était abaissé, il a mis de côté ses pouvoirs de divinité. C'est-à-dire que quand Jésus marchait sur la terre, il marchait en tant qu'un homme avec toutes les limitations et toutes les faiblesses d'un être humain mortel. Mais maintenant, vous voyez qu'est-ce que Jésus a fait, l'échange qu'il a fait? Il a dit, bon, je vais pour un peu de temps devenir ce que vous êtes, avec toutes vos faiblesses, sauf le péché, bien entendu. Je vais être limité sur cette terre. Je ne vais pas marcher sur la terre comme le Dieu omniscient qui connaît toutes choses, comme le Dieu omnipotent qui peut faire toutes choses. Parce que vous êtes d'accord que si le Dieu omnipotent aurait se manifesté sur la terre, qu'il aurait tué tous ceux qui étaient dans son entourage. Parce qu'un homme pécheur ne peut pas se tenir dans la présence d'un Dieu 100% saint. Dans toute sa gloire et dans tout son pouvoir. Jésus, le Fils de Dieu, il a mis de côté sa gloire. Il était abaissé pour un peu de temps. Il a marché sur la planète Terre comme un homme limité par les faiblesses de la chair. Amen? Mais maintenant, il n'est plus limité. Il est ressuscité. Il n'est pas juste ressuscité, il est encore glorifié. Tout le monde est glorifié. C'est-à-dire que le corps de Jésus, il a encore un corps humain, sauf qu'il n'y a plus de sang là-dedans. Il a versé son sang. La vie de Dieu est dans son corps, mais il a encore... Qu'est-ce que Jésus a dit après la résurrection? Viens, touche. Un esprit n'a pas de chair et d'os. Il n'a pas dit du sang. Un esprit n'a pas de chair et d'os. Et ce corps de chair et d'os est encore existant aujourd'hui. Et aujourd'hui même, il y a un membre de la race humaine qui est assis sur le trône de l'univers. Il est à 100% Dieu. Il est à 100% homme. Qu'est-ce que Jésus a dit en Apocalypse, chapitre 22, quand... Je vais le lire pour vous. C'est pas dans vos notes, c'est pas sur le PowerPoint, mais je vais le lire pour vous quand même. Alléluia, Apocalypse 22. Je veux que vous voyez cela aujourd'hui. Vous savez que, au moment donné, les prophètes ont prophétisé, ils ont parlé à David, et ils ont dit à David qu'un membre de sa famille, que Dieu allait établir le trône de David, pour éternité. Est-ce que vous me suivez? Ô Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation aujourd'hui. Apocalypse 22, 16 dit ceci. Moi, Jésus, tout le monde dit Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et ici, on parle, c'est Jésus après la résurrection. C'est Jésus qui est déjà rendu au ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la prochaine chose qui sort de sa bouche? Je suis le rejeton et la quoi? La postérité de David, l'étoile brillante du matin. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Vous savez quoi? Moi, j'ai jamais besoin de craindre qu'un jour, dans 2 milliards d'années, une fois rendu au ciel, que Dieu va changer d'idée, il va dire, je vais me débarrasser de la race humaine. Je veux plus être le père de cette création que j'ai faite. Il ne peut pas faire cela. Vous savez pourquoi? Parce que il est devenu un avec sa propre création. Dieu est un homme aujourd'hui. Allô? J'ai dit que Dieu est un homme aujourd'hui. Mais maintenant, cet homme est glorifié. Jésus est devenu, et c'est dans vos notes, pour un peu de temps, ce que nous sommes ou ce que nous étions, afin que nous puissions devenir pour éternité ce qu'il est. Alléluia. Moi, j'ai le goût de faire le tour et de tourner un peu, hein. Il y a un homme, un membre de la race humaine, quelqu'un qui peut compatir à nos faiblesses, quelqu'un qui peut nous secourir dans nos tentations, quelqu'un qui sait c'est quoi d'être faible, quelqu'un qui sait c'est quoi d'être limité par un corps physique mortel. Mais maintenant, il comprend parce qu'il a vécu, il a passé par là, mais il n'est plus dans cet état de faiblesse. Maintenant, cet homme est glorifié. Jésus-Christ, homme. Tout le monde dit, Jésus-Christ, homme. Il n'a pas arrêté d'être un homme après la résurrection. Il est encore homme aujourd'hui. Et il sera dans 100 milliards d'années, il sera encore homme sur le trône. C'est un homme qui va toujours régner au ciel. Un homme Dieu. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi de l'univers. Et je peux maintenant m'approcher du Père toujours et en tout moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. Regarde quelqu'un et dit, joyeux Noël! Alléluia! Quel échange! Jésus est devenu pour un peu de temps ce que nous étions, afin que nous puissions devenir pour éternité ce qu'il est. Savez-vous que la Bible dit que nous sommes une seule plante avec lui? Qu'il est la tête et nous sommes le corps? Savez-vous que la Bible dit que nous avons été ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes? Alléluia! Il lui a donné comme chef de l'Église. Il a placé dans la place au-dessus, infiniment au-dessus de tout pouvoir et tout nom qui se peut nommer. Et je suis avec lui et en lui une seule plante avec ce Dieu et ce homme. Gloire à Dieu! Quelques-uns de vous, ça va cliquer. Peut-être dans 2 heures, ou 2 semaines, ou 2 ans, mais un jour ça va cliquer, et vous aussi, vous allez vouloir faire le tour. Quel échange, juste vite, vite. 7 choses qu'il a échangées. On pourrait faire une série de prédications sur chaque, mais je veux qu'à chaque fois que vous faites un échange de cadeaux, pendant cette saison des fêtes, que vous pensez à ce que Jésus a échangé avec nous. Numéro 1, il vous offre le pardon en échange de vos péchés. Ça, c'est un bon échange. Vous êtes d'accord? J'ai quelque chose à donner à Dieu et il a quelque chose à me donner. Qu'est-ce que j'ai à lui donner? Mes péchés. Qu'est-ce qu'il va m'offrir en retour? Le pardon. Ça, c'est une bonne affaire. Vous êtes d'accord? Ça prend pas un scientifique de savoir que c'est nous qui avons le meilleur côté de cette affaire. Vous êtes d'accord? J'étais pécheur, j'étais perdu, et je lui offre mes péchés, il me donne son pardon. 1 Pierre 3:18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ils ont été mis à mort quant à la chair, mais ils ont été rendus vivants quant à l'esprit. Amen. Deuxième chose, il vous offre la justice en échange de vos iniquités. Ça, c'est une bonne affaire aussi, vous êtes d'accord. Vous savez qu'il y a une différence entre le pardon et la justification? C'est quoi la différence entre être pardonné et justifié? Le fils prodigue, il est parti de la maison, il a gaspillé son héritage, il mangeait avec les cochons, il faisait toutes sortes de bêtises, et finalement il dit, oh! Il est revenu à ses bons sens, il a dit, bon, je vais retourner à la maison de mon père, parce qu'au moins les esclaves, les serviteurs chez mon père mangent mieux que moi, je mange avec les cochons. Donc, il retourne chez son père en cherchant le pardon. Oh, père, je sais que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais juste donne-moi une place avec les esclaves, avec tes serviteurs, je vais travailler pour toi, j'ai faim, je peux plus. Donc, juste au moins, pardonne-moi. C'est ça qu'il disait en réalité. Mais savez-vous quoi? Le père n'a pas juste offert le pardon, il a offert la justification. Il a restauré le fils à la place qu'il avait avant d'avoir péché. Et quand nous sommes conscients de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, regardons le verset qui est là, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui, quoi? » Savez-vous c'est quoi la justice? La justice, c'est le fait d'être en règle avec Dieu. C'est le fait de pouvoir s'approcher de Dieu sans avoir un sentiment d'infériorité, ni de peur, ni de crainte. C'est pas, oh, je suis un ver de terre, je suis plus digne d'être ton fils. Mais Dieu veut nous restaurer. Il veut nous redonner notre position. Pas juste nous pardonner, pas juste effacer nos péchés, mais dire, bon, c'est pardonné, c'est oublié, et maintenant je t'ai restauré à la place que tu avais avant de pécher. Juste comme si vous n'avez jamais péché. Ça, c'est la justification. Et Romains 5, 17 dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, celui qui reçoive l'abondance de la grâce et du... » quoi? « Du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? » Quel échange! J'offre à Dieu mon injustice, mes iniquités, et Dieu m'offre gratuitement le don. Il dit, « Tu sais quoi? Tu n'es pas seulement pardonné, tu es restauré. » Tu es mon fils. Et je deviens aussi juste que Jésus lui-même. Savez-vous quoi? Je suis aujourd'hui, aux yeux de Dieu, aussi juste que Jésus-Christ lui-même. Oh, orgueilleux. Comment est-ce que vous pouvez dire cela? Je ne suis pas orgueilleux. Je suis reconnaissant. Avec humilité. Ce n'est pas ma justice. Ma propre justice ne vaut rien. Mais j'ai reçu le don de la justice, et je suis rendu aussi juste que Jésus. C'est un bel échange, n'est-ce pas? Bel échange, beau échange, bel échange. Peu importe, c'est beau, c'est belle, c'est merveilleux. Numéro 3, le plus bel échange. Il vous offre la paix en échange de vos soucis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des soucis? Il ne faut pas lever la main. Correct. On a tous à l'occasion des soucis, n'est-ce pas? On peut aller lever les mains, les pieds et tout. Mais selon la parole de Dieu, on peut offrir quelque chose, notre Père. Qu'est-ce qu'on lui donne des fois, hein? Les péchés, les iniquités, les soucis. Il dit, donne-moi ça et voilà ton cadeau, la paix. La paix que tu fasses toute connaissance, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? 1 Pierre 5, 6 et 7 dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Sachez que l'humilité est un principe clé. Si on veut se décharger sur Dieu de nos soucis, ça prend l'humilité. Beaucoup des personnes ne sont pas prêtes à donner leurs soucis à Dieu parce qu'ils sont trop orgueilleux. Mais je peux le régler moi-même. Je suis capable. Je n'ai pas besoin d'aide. Pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Non, vous n'êtes pas capable. Cette fois-ci, vous n'êtes pas capable. Je sais que d'habitude, pas capable vient par l'école, pas capable vient par l'église. Mais cette fois-ci, pas capable vient à l'église. Vous n'êtes pas capable, dans votre propre force, de régler vos propres problèmes. Vous n'êtes pas créé pour porter ces fardeaux et ces soucis. Déchargez-vous, regarde bien, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de la moitié de vos soucis. Oh, 90%, garde les plus gros vraiment pour des moments intenses d'inquiétude. Car lui-même prend soin de vous. C'est qui prend soin de vous? C'est qui Jésus? Il est Dieu, il est homme. Jésus-Christ, homme, prend soin de vous. Le roi de l'univers prend soin de vous. Celui qui a reçu toutes choses prend soin de vous. Alléluia! Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce et quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, je donne à Dieu mes soucis. Et qu'est-ce qu'il me donne en retour? La paix. Est-ce que c'est un bon cadeau? Vous êtes d'accord? Voulez-vous partir aujourd'hui avec la paix? Alors, partez pas avec vos soucis. Hein? C'est comme, hein, il y a des jeux, on voit des fois à la télévision, est-ce que, quel cadeau, quelle porte est-ce que vous allez choisir? Porte numéro 1 ou porte numéro 2? Hein? Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous êtes habitué et vous savez c'est quoi dans votre boîte de soucis. La paix, c'est bizarre, vous connaissez pas ça. Donc, c'est inconnu et on a toujours peur de l'inconnu. Il y a quelques uns ici, vous avez peur de lâcher prise de vos soucis. Parce que vous allez vous dire, qu'est-ce que je vais faire avec mon temps? Je suis tellement habitué à m'inquiéter et de parler de mes problèmes. À chaque fois que je suis avec les amis ou avec la famille ou avec qui que ce soit, je parle de quoi? Je parle de mes problèmes. Je parle de mes soucis. Qu'est-ce que je fais la nuit? Je pense à mes soucis. Je rêve de mes soucis. Donc, mes soucis sont chers. Mais Dieu dit, je veux cette boîte des soucis et j'ai une belle boîte de paix à vous donner. Qu'est-ce que vous voulez? La paix. Amen. Alléluia. Numéro 4. Il vous offre la santé en échange de vos maladies. Ça, c'est un bel échange aussi, n'est-ce pas? Jésus a dit, donne-moi tes maladies, je te donnerai la santé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes... Regardez notre personnalité, joyeux Noël! Verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Quel bel échange! À la croix, il a pris mes péchés et maintenant il me donne le pardon. À la croix, il a aussi pris mes maladies, et il m'offre aujourd'hui la guérison et la santé divine. Numéro 5, il vous offre la prospérité. Vous savez que je n'invente pas ces choses? Il vous offre la prospérité en échange de votre pauvreté. Mais là, pasteur, je pense, j'ai de la misère avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Jésus, il est 100% Dieu, il est 100% homme, Jésus a hérité toutes choses. Ici, sur la terre, sous la terre, au-dessus de la terre, toutes choses sont à lui. Vous êtes d'accord? Et la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et quoi? Co-héritiers de Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un homme? On parle d'un homme. Oui, Dieu. Et il est 100% Dieu et 100% homme. Est-ce que vous connaissez un homme, un être humain qui est plus riche que Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut... Oh, mais il y a Bill Gates, il a pas mal d'argent. Donald Trump, et il y a d'autres personnes qui ont... Oh, il y a certains joueurs de hockey qui en gagnent pas mal. Mais c'est rien comparé à ce que Jésus a. Tout l'univers lui appartient. Et si nous avons besoin d'une petite partie de cet univers pour combler nos besoins, il va nous confier cela. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 8, 9, on parle de bel échange. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait quoi? Pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous aussi vous soyez dans la misère, et vous aussi vous compreniez c'est quoi de ne pas avoir assez pour combler vos besoins, que vous aussi vous soyez, étant donné que vous êtes né pour un petit pain, que vous manquez toujours. Est-ce que c'est ça qui est marqué? Non. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Oh, mais pasteur, tu veux dire spirituellement? Oui, je veux dire spirituellement. Mais je veux dire aussi, comme 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu m'en dis tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et le contexte de ce verset 2 Corinthiens, chapitre 8, lisez ça, ça parle des richesses naturelles. Ça parle d'une offrande. Paul est en train d'encourager les chrétiens à donner une offrande aux pauvres. Et dit que Dieu est capable de faire en sorte que vous ayez toujours de quoi satisfaire tous vos besoins avec un superflu pour participer à toute bonne œuvre. Donc le contexte est là. Si vous ne l'aimez pas, je suis vraiment désolé pour vous. Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi, quoi? Tous ceux dont il désire nous combler. Savez-vous que Dieu désire nous combler? Alléluia! Pas juste pour qu'on puisse se gâter et oublier. La Bible dit clairement en Deutéronome, chapitre 8, que c'est Dieu qui vous donne le pouvoir d'accueillir les richesses pour établir son alliance. Donc, c'est pour, pas pour des raisons égoïstes, mais c'est pour faire la volonté de Dieu et aider les autres et faire qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse sur la terre. Numéro 6, il vous offre, quel bel échange, la joie en échange de votre tristesse. Alléluia! Regardez, trouvez une autre personne et dites joyeux Noël! Regarde bien, le roi de l'univers, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, il s'est abaissé pour un peu de temps, il est devenu ce que nous étions pour un peu de temps, afin que nous puissions devenir ce qu'il est pour l'éternité. Mais regarde, dans le jardin, juste avant la crucifixion, il expérimente la tristesse profonde. Il lui dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont éloignées de moi, cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que vous voyez que Jésus, encore, est-ce que Jésus était obligé de vivre cela? Est-ce que Jésus était obligé de vivre cette angoisse? Non! Jésus, de sa propre volonté, il a pris une décision de faire un échange. Je vais prendre ta tristesse. Toutes les déceptions que vous avez eues dans votre vie. Toutes les fois que vous avez été blessé, déçu. Toutes les fois que vous avez eu une perte ou vous avez expérimenté l'angoisse et la misère ou la dépression, je vais prendre tout cela. Et Jésus, il a expérimenté cette tristesse. C'était tellement angoissant qu'il a eu la sueur qui est devenue comme les gouttes de sang. J'ose dire qu'il n'y a personne ici qui a été aussi triste que votre propre sueur est devenue comme les gouttes de sang. Peut-être vous avez eu le sentiment que c'était comme ça, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a vécu? Je vous assure, c'était la tristesse de toute tristesse. Il a pris cela sur lui. Pourquoi? Afin de vous offrir la joie. Quel bel échange! Regardons qu'est-ce qui est marqué. Ésaïe 61, c'est là où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, etc., etc., pour le donner en diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia! Le deuil, c'est important. On a besoin de faire le deuil des fois. C'est normal, c'est naturel, mais Dieu va toujours échanger le deuil avec quoi? La joie. Un esprit abattu va être remplacé par un vêtement de louange. Alléluia. Et numéro 7. Il vous offre son repos en échange pour vos fardeaux. N'est-ce pas bon d'avoir le repos, de savoir que, hé, la vie des fois c'est dur, la vie des fois c'est tough, mais qu'est-ce que Jésus a dit à Matthieu 11, 28? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous, quoi? Donnerai du repos. Amen. Amène-moi vos fardeaux. Amène-moi votre fatigue. Amène-moi le trouble dans la vie et je vous donnerai quoi? Du repos. Et tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Regarde une autre personne et dis joyeux Noël. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dit? Ah oui, viens. Alléluia. On va se lever debout et on va prier ce matin. Je sais pas si... Alléluia. Dieu est bon. On va prier. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et aujourd'hui, je sais qu'à Drummondville, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, eux, la révélation de ce bel échange. C'est quoi la meilleure chose que vous pourrez offrir les membres de votre famille? C'est quoi la meilleure chose que vous pourrez offrir à vos voisins, à vos collègues de travail? Hein? Je sais, la meilleure chose que vous pouvez leur donner, c'est une tasse de Tim Hortons, n'est-ce pas? Avec une carte dedans, oui. Non, ça c'est bon. Mais la meilleure chose qu'on pourrait offrir, c'est la connaissance du Fils de Dieu. 100% Dieu, 100% homme, venu sur la terre, s'est abaissé pour un peu de temps, mais maintenant glorifié, couronné, assis sur le trône du ciel. Le roi de l'univers. Et vous pouvez offrir à tous ceux et celles que vous connaissez l'occasion de monter sur le trône avec Jésus. Pas au-dessus de lui, toujours juste en bas de la tête, le corps se trouve assis sur le trône. Vous savez que Satan voulait exalter son trône au-dessus du trône de Dieu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait nous inviter à s'asseoir avec lui et en lui sur son trône. Wow! Quel bel échange! Mais savez-vous qu'aujourd'hui, je vous exhorte, je vous encourage, prenez le temps d'offrir ce cadeau à quelqu'un que vous connaissez. Dans les jours à venir, partagez cette nouvelle. Amenez les personnes à l'église si vous avez besoin d'aide pour témoigner. Même le 31, on va avoir une fête ici, ça va être merveilleux. Mais dimanche prochain, on va être ici. Mais savez-vous quoi? Pas besoin d'attendre l'église. Vous pouvez vous-même, à la maison, au restaurant, dans les magasins, au travail, partager cette bonne nouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce cadeau si merveilleux. Je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, que si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez jamais reçu ce don. Dieu vous offre aujourd'hui la vie éternelle en don gratuit. Il vous offre le pardon, il vous offre la justice, la paix, la santé, toutes les choses qu'on a mentionnées aujourd'hui. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de lui donner votre vie dans son état actuel. Avec tous ses problèmes, avec tous ses manquements, avec toutes ses peines, avec toutes ses déceptions, donnez votre vie à Jésus et il va vous donner en retour, en échange, sa vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Je vais juste vous donner l'occasion aujourd'hui. Jésus a dit ceci, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. » Donc aujourd'hui, si vous voulez recevoir ce cadeau, si je vous pose la question, en quittant la baptiste aujourd'hui, si ton cœur arrête de battre, est-ce que vous avez la conviction, l'assurance à 100% que vous allez passer l'éternité au ciel avec Jésus? Sinon, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le recevoir par la foi. C'est un don gratuit. Il y a quelqu'un ici ce matin qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut confesser Jésus devant les hommes, afin qu'il puisse te confesser devant le Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que Jésus est Dieu, et Jésus est homme, et Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort pour nos péchés, enterré, ressuscité le troisième jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Je vais juste compter à trois, et sur trois, si vous voulez, lever la main haut dans l'air. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Jésus? Je lève la main. Peut-être que tout le monde l'a déjà fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne prends pas beaucoup de temps. Sinon, j'ai à cœur de prier ce matin. De prier pour ceux et celles qui sont déjà dans le corps de Christ, mais de prier que nous soyons sensibles dans les jours et les heures à venir, afin qu'on puisse partager cette bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Donc, Père Céleste, priez ceci. Père Céleste, merci pour ce don. Merci pour cet échange. Tu nous as donné la vie. Tu m'as pris tel que je suis et tu m'as transformé. Tu m'as changé. Je suis ton enfant. J'ai reçu le don. Mais aide-moi, Seigneur, à partager ce don avec mon entourage. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on a eu une requête.